Carnet de voyage. Une invitation.
Can't anybody see? Amis auditeurs de RCF, bonjour. Nous recevons pour ce nouveau carnet de voyage Marianne Lebon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes partie en Australie, même plus loin. Vous êtes restée un an au moins là-bas.
Oui, tout à fait, oui.
Au départ, vous êtes partie à l'aventure. Vous saviez pas si vous alliez trouver du travail?
Non, j'avais envie de... Quand j'ai commencé à penser à partir, j'avais déjà 27 ans. Donc, étant donné que le genre de visa que je voulais faire, qui s'appelle le Working Holiday Visa, n'est disponible pour l'Australie que jusqu'à 30 ans révolus, donc ouais, jusqu'à la veille du 31e anniversaire, sans être trop urgent, j'avais envie de le faire avant d'avoir 30 ans, évidemment. Et on va dire que le moment se prêtait bien. J'avais suffisamment économisé pour faire ça. Donc, j'ai tenté la chance.
Vous êtes parti à l'aventure aussi avec un ami qui a la chance d'avoir un boulot qu'on trouve partout dans le monde.
Oui, mon petit copain, mon compagnon, Denis, il est pâtissier. Il est chef pâtissier, donc c'est vrai qu'il n'a pas eu énormément de problèmes, loin de là, à trouver un travail. Au bout de 6 mois, il y avait déjà des journalistes qui souhaitaient l'interviewer. Donc c'est vrai que lui, de ce côté-là, il a pu élargir l'éventail de ses possibilités, de ses qualifications, puisqu'il a ajouté à l'anglais, à tout ça. C'est quand même assez important, assez intéressant quand on travaille à l'étranger. L'anglais, c'est la langue universelle.
Ouais.
Même si la cuisine, on sait que la France apporte beaucoup, ou qu'on reste beaucoup sur des principes français, une façon de faire française, mais c'est quand même bien différent à l'étranger.
Lui devait être très coté.
Oui, il a vraiment pas eu de problème. Directement, en étant en France, il y a beaucoup de pâtissiers en France. On peut, même s'il était déjà très bon en France, sur Paris, il a explosé à l'étranger, évidemment,
parce qu'il
avait de bonnes références, de bonnes qualifications.
Par contre, il ne parlait pas anglais du tout,
non,
c'est vous qui étiez sa conseillère.
Domaine, l'anglais. Oui, moi, j'ai étudié l'anglais, donc forcément, j'ai eu la chance que lui, qu'il n'a pas eu. Donc moi, j'ai déjà étudié, j'avais un master d'anglais, donc ça allait. J'ai déjà vécu en Angleterre pendant un an aussi, il y a presque 5-6 ans. Donc, l'anglais, je maîtrisais. Mais après, moi, j'y suis allée. Mon travail, il était un petit peu plus facile à trouver. Hein. Serveuse, il y en a... Tout le monde veut être servi dans le monde. C'est facile de trouver. Il ne faut pas être trop demandant non plus. Il ne faut pas chercher trop...
On va voir que même vous avez réussi à vous faire virer 2 fois,
oui,
alors qu'en France, ça ne vous arrive jamais.
Non, ça ne m'était pas arrivé en France. Même si, en France, ça faisait pas si longtemps que je travaillais. Hein. J'ai arrêté à 25 ans, donc j'avais un travail en France pendant 2 ans. J'étais manager dans un pub anglophone, donc je continuais à pratiquer l'anglais.
Ça, c'est bien vu, ouais.
Oui, et donc en Australie, évidemment, vu que on n'était pas non plus basé pour un long moment, on est resté comme 6 mois à Brisbane, 6 mois à Byron Bay.
Ouais.
Et donc, forcément, on ne peut pas prétendre à un travail... avec beaucoup de responsabilités, parce que souvent on peut être un peu pénalisé par le fait qu'on a un visa qui ne dure qu'un an.
Ouais.
Donc les gens, soit ils décident de faire le pari sur vous et de vous sponsoriser à l'issue des 1 an, mais bon, tout le monde sait aussi que quelqu'un qui n'est pas australien, qui vient pour 1 an, ne va pas travailler pendant 1 an au même endroit, va vouloir voyager, voir du pays.
Ouais, bien sûr.
Donc c'est un petit peu le revers de la médaille. Il faut prendre ce qu'on prend, il faut prendre ce qu'on trouve.
Et ça s'appelle des casual, ce genre de travail?
Oui, quand on nous emploie, c'est souvent, ils appellent ça casual, ça veut dire qu'on peut vous faire travailler un petit peu comme on veut, c'est-à-dire entre 20 heures par semaine jusqu'à 60 heures par semaine, 6 jours sur 7, s'ils le désirent.
Ouais.
Après, je ne vais pas non plus dire que c'est... C'est Sodome et Gomorre là-bas, c'est pas le cas. On peut travailler, on gagne très bien sa vie, on gagne bien mieux sa vie qu'en France.
Oui, parce que vous êtes payé.
Mais le salarié n'est pas aussi protégé qu'en France.
Ouais, vous êtes bien payé à l'heure, mais c'est un peu n'importe quand, n'importe comment, quoi.
Voilà, on a un petit peu la botte du patron.
Ouais, voilà.
Après, si le patron est sympa, il y a aucun problème. Hein, et il y en a beaucoup qui étaient très sympas.
Alors vous avez décidé de, enfin vous êtes arrivé dans des petits coins extraordinaires un peu par hasard.
Oui. En fait au début on avait plus ou moins décidé de partir sur Brisbane parce qu'on savait pas où aller ailleurs. On s'était dit on va éviter Sydney. On savait qu'il y avait beaucoup de une grosse communauté française, donc on part pas à l'étranger pour parler avec les Français, donc on avait envie un peu de pas trop en voir, mais bon. On s'est aperçu après que de toute manière, des Français à l'étranger, il y en a partout.
Autant que les Allemands.
Oui. Et du coup, on est arrivé à Brisbane. Oui, je vous écoute.
Oui, c'est une rencontre avec Michael, je crois, qui vous a amené ensuite dans un petit coin paradisiaque.
La première personne que j'ai rencontrée, il y en avait d'abord un premier qui m'a marqué, qui s'appelait Mick. C'était un autre Michael, effectivement. Et lui, c'était un petit peu, on va dire, un autochtone de Brisbane, un petit peu en marge de la société, un petit peu un activiste. Je me demandais un petit peu ce qu'il faisait à côté. Il n'en parlait pas trop. Et quand il en parlait, il avait un accent à couper au couteau. Donc, je ne comprenais pas tout ce qu'il disait, de toute manière.
Heureusement, comme ça, vous ne serez pas complice en cas de
voilà.
problème.
Et donc, voilà. Et lui, donc, il me montrait un petit peu les petits recoins de Brisbane, les raccourcis, là où il faut aller, là où il ne faut pas aller. Il me parlait un petit peu de tout et tout. Donc, ça, c'était assez sympa. C'est une première personne qui a marqué, du moins, mon séjour à Brisbane. Et après... En partant de Brisbane, on voulait un peu changer d'air. On voulait aller sur une autre grande ville. On voulait aller sur Sydney. Et en fait, en partant à Sydney, nous sommes partis en vacances dans les montagnes. Et dans les montagnes, on a rencontré un autre Michael, un peu plus âgé. Celui-là, qui était fermier, qui avait une ferme dans les montagnes, dans une petite ville près de Nimbin. Alors, certains reconnaîtront une petite ville... un peu hippie de la Nouvelle-Galles du Sud.
Et qui est resté hippie encore maintenant.
Oui, oui, qui est vraiment très... qui est hippie, c'est juste une rue, mais c'est très, très animé, très haut en couleur, très...
Il y a encore le power carnaval.
Oui, limite, oui. Avec tous les énergumènes et les hurluberlus que ça amène. Donc, il y a encore un gros carnaval chaque année là-bas, qui attire plus de 50 000 personnes, enfin bref. Et donc cette personne, Michael, nous avait proposé à moi et mon copain de venir et de l'aider un petit peu à retaper sa ferme, l'aider un petit peu à jardiner, à planter ses trucs. Et en échange, il nous logeait, il nous nourrissait. Et donc on s'est dit pourquoi pas, puisqu'on était en vacances. Et on est resté là-bas pendant une semaine et demie, Tranquillement, chez lui, dans sa vallée, dans sa petite maison, où il y avait les kangourous autour, où on faisait un petit peu ce qu'on voulait, mine de rien. On choisissait ce qu'on avait envie de faire. Donc c'est assez sympa, puisque ça te permet... c'est pas tous les jours que tu... Moi, j'ai jamais habité en maison, donc c'est agréable de pouvoir jardiner.
Et surtout dans une ferme.
Oui, non, c'est vraiment sympa. Et puis...
Les kangourous sont libres.
On les voyait passer, les kangourous, les walibis, tranquillement. Enfin, c'est leur. Qu'est-ce qu'on a en France qui se promène comme ça n'importe où, n'importe quoi.
À Névache, dans notre beau département là, on a les lamas.
Ah bon?
Oui, il y a des lamas à Névache. C'est incroyable, d'accord. Mais ils se baladent pas quand même partout.
D'accord.
Ils sont dans un enclos.
Là-bas, ils ont la place. Hein. Ils se promènent un peu où ils veulent. Et donc, cette personne-là, quand on avait décidé de partir sur Sydney, nous avait conseillé quand même de visiter sa ville natale qui s'appelait Byron Bay.
Alors, on va peut-être faire une petite pause et puis on parlera de Byron Bay juste
d'accord.
après. On va écouter un Australien qui est très connu à l'étranger, que moi j'avais découvert au Festival d'été de Québec. Il s'agit de Xavier Rude, qui joue du didgeridoo. Hein, c'est comme ça qu'on dit.
Oui, c'est comme ça.
On va écouter ce que ça donne et puis on parlera après de Byron Bay.
Oh,
Rebonjour, amis auditeurs. Nous sommes toujours en Australie avec Marianne Lebon. Le didgeridoo, c'est toujours aussi hypnotique. Hein.
Oui, oui, oui.
on était proche d'arriver à Byron Bay.
Oui, c'est ça, oui. On est allé sur Byron Bay à la base parce qu'on nous avait conseillé, on avait été conseillé par cette personne, Michael, qui nous disait d'aller visiter, que c'était sa ville natale, que c'était assez joli, pas loin, et le point le plus à l'est d'Australie avec une grande baie, enfin un coin assez relaxant. Donc on, ouais. En fait, on a pris, on s'est dit pourquoi pas, on y allait deux jours et on y restait. Ben moi, j'y suis restée 7 mois, lui, mon copain, il y est resté 9 mois.
Alors que c'était au départ même pas prévu d'y aller quasiment.
Non, mais quand on est arrivé, qu'on a vu la plage, le temps, il faut voir qu'on était au début de l'hiver, donc. On ne savait pas trop le climat qu'il allait avoir sur Sydney, qui était quand même 700 km plus bas. Donc, c'était pas non plus, ça n'allait pas changer du tout au tout. Mais on avait peur d'avoir un peu froid. Et en fait, on arrivait à Byron Bay, c'était vraiment joli. Ça bougeait, mais en étant tranquille. Il y avait une population un petit peu hétéroclite, des gens un petit peu de tous les côtés, beaucoup d'étrangers aussi.
Ouais.
Et donc, ça nous a quand même plu, tout ce brassage. Et du coup... En cherchant un travail, on s'est rendu compte qu'on pouvait largement s'en sortir puisqu'on a tous les deux trouvé un emploi assez rapidement. Donc on s'est installé à Byron Bay et là, en fait, on a vécu un petit peu plus la vie comme...
D'autochtones.
Ou comme peut-être certaines personnes en France peuvent penser que tu peux vivre en Australie, c'est-à-dire avoir la maison à 2 minutes à pied de la plage.
Ah ouais, ouais.
Il fait chaud tout le temps... Tout le monde a une planche de surf, va surfer le matin à 7h du mat. Bon, moi, je suis pas une, ouais. je suis pas très matinale, mais bon, je l'ai déjà fait quelques fois. Donc, c'est une vie qui est un petit peu plus, un peu plus en accord avec les éléments, un peu plus relax. Donc, moi, j'ai bien aimé. C'est vrai que le temps passe vite et on n'a pas besoin de grand chose quand on vit dans ce genre d'endroit parce que. On se satisfait de pas grand-chose, en fait. C'est déjà super agréable de pouvoir plonger dans la mer avec des lunettes et regarder les tortues, pouvoir observer les baleines à certaines saisons aussi. Donc, c'est vraiment un endroit particulier dans le monde.
Et est-ce qu'il y a, aussi... les surfeurs n'ont pas peur des requins, puisqu'il y a les requins
qui sont là. Il y en a... Oui, il y en a beaucoup, mais bizarrement, il n'y a pas trop d'attaques. Mais bon, ils font un petit peu attention quand même, les surfeurs. Ils savent, tout le monde sait qu'il ne faut pas non plus
ils sont pas là, ils ont
trop
des
s'éloigner.
Horaires.
Après, il y a toujours les surfeurs qui se font attraper par les courants. C'est plus les courants que les requins, malgré tout. Mais il y a quelques requins qui traînent dans le coin.
Et alors justement, à Byron, vous étiez en colocation.
Oui, oui.
Et vous avez rencontré une Néo-Zélandaise.
Oui, j'étais en colocation. Alors, il y avait un petit peu de tout dans ma coloc. Hein. On était des Français, des Irlandais, des Australiens, Canadiens. Il y avait même un Japonais. Et il y avait une Néo-Zélandaise qui s'appelait Mifanui. Et donc, c'est devenu une bonne amie à moi. On a habité ensemble pendant 3-4 mois. Et c'est grâce à elle, après, que j'ai décidé d'aller en Nouvelle-Zélande. Pour faire une autre année de voyage et elle m'a conseillé, je l'ai conseillé. Elle est partie peu de temps après que moi je sois partie en Nouvelle-Zélande. Elle est partie pour la France. Elle a pas fait un working holiday visa, mais elle est partie visiter l'Europe avec une amie. Donc on s'est échangé un petit peu les points de chute. Elle m'a dit qu'est-ce qui était sympa en Nouvelle-Zélande et moi j'ai fait pareil.
Ouais, les bonnes adresses.
Pour Paris, pour la France.
Ben ce sera l'occasion de faire un nouveau carnet de voyage sur la Nouvelle-Zélande.
Oui, pourquoi pas.
Ce sera une bonne idée. Elle, quand elle va en Europe, elle pense travailler aussi quand elle fait le tour de l'Europe ?
Non, elle avait économisé pour pouvoir juste faire le tour de l'Europe et la touriste, les vacances.
Bon, on va passer à un autre morceau de Xavier Rude, qui est un morceau où il fait du bottleneck avec une sorte de tube sur le doigt et on a la guitare devant soi, à plat, et on fait bouger son doigt. Ça fait des sons un peu bizarres. On écoute.
The jacks are all back in the boxes, and the clowns have all gone to bed. You can hear
happiness staggering down the street. Oh, the footprints are all dressed in red, and the wind whispers. Broken pieces of yesterday's life. Somewhere a clean sheet is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind
auditeurs, on est toujours en Australie, toujours avec Marianne. On n'a pas parlé de quelque chose qui doit être très connu chez nous en France, là, c'est les Blue Mountains.
Oui, ça c'est autour de Sydney, tout autour. Vous avez à peu près une heure et demie de route, vous avez les Blue Mountains, donc là c'est vraiment, ils appellent ça la rainforest, c'est la forêt tropicale.
De la pluie, ouais.
Oui. Et
elles sont vraiment bleues, ces montagnes ?
Ben, selon une certaine lumière, ah. Oui, en fin d'après-midi, oui. Des animaux, beaucoup d'oiseaux, des perroquets partout. Et on s'est fait un petit camping là-bas pendant 2-3 jours. Faisant bien attention aux araignées.
Oui, parce qu'il y a des petites araignées qui tuent en 15 minutes.
Oui, alors ça, c'est ils sont très fiers là-bas. C'est la redback, ça s'appelle. C'est une araignée qui est pas plus grosse que la taille de votre ongle, et elle est noire et rouge, et elle tue en 15 minutes. Et,
ouais.
Et voilà, et c'est pas la seule, de toute manière.
Et comment est-ce qu'on fait pour se balader comme ça et ne pas avoir.
Ben, on fait attention.
Pas tomber dessus.
On fait attention, c'est tout, hein. On se promène pas en forêt avec une paire de claquettes.
Ouais.
On n'est pas bête, hein. Et puis c'est tout. Il faut aussi avoir les moyens quand tu vas en forêt de l'antipoison, de l'antivenin si possible, mais après c'est pas non plus.
Ouais, elle court pas les rues quoi.
Non, ouais. C'est pas non plus.
Et est-ce que c'est un peu le système américain où il y a des gardiens de parc, où il faut Être dans des lodges, non?
Non, pas vraiment. Non. Là, il faut quand même leur signaler. Il faut avoir une licence pour faire du camping. Toujours. Il faut une licence pour camper, une licence pour pêcher, une licence pour faire ci ou ça. Mais ce n'était pas un parc national, donc ça ne nécessitait pas d'entrer ou de payer pour.
D'accord. Et la licence pour camper, c'est quelque chose que tu achètes, quoi?
Oui.
Tu n'as pas un examen à passer?
Non.
Tu ne te pointes en montrant que tu sais camper?
Non. Mais ils aiment bien les Australiens. Par exemple, quand on travaille dans la restauration, si jamais on vend de l'alcool, donc dans tous les bars, les restos, partout, plus ou moins, on est obligé de passer un examen, entre guillemets, qui s'appelle le RSA. Ça veut dire Responsible Service of Alcohol. Et donc, c'est... On va à un cours pendant toute une après-midi qui nous dit qu'il ne faut pas servir les mineurs, ni les gens agressifs. Enfin, tout ce qu'on sait déjà, tous.
Ouais, d'accord.
Donc, voilà. Ils aiment bien nous éduquer.
Alors que le RSA ici, c'est pas ça du tout, quand même.
Bah non, ici si on fait appel à notre sens...
Notre bon sens.
Oui, ouais. Mais voilà, tout simplement.
C'est pas dramatique.
Non, ce serait pas dramatique si c'était que pour informer, mais en fait, il y a un RSA par État en Australie.
Ah ouais, d'accord.
Donc, si jamais on travaille dans le Queensland et qu'on part en Nouvelle-Galles du Sud,
Il faut le repasser,
il faut repayer ces 200 dollars. C'est juste un petit peu.
Ouais.
Pourquoi ne pas harmoniser à ce compte-là si jamais le sens ou le but, c'est l'information et que tout le monde travaille de la même façon.
Ouais, en réalité, c'est juste pour récupérer un petit peu d'argent.
Ouais, je pense.
Sur les
étrangers.
Ça
serait pas étonnant.
Bon, ben, on a quand même eu le temps de bien parler de l'Australie. Mmh. Donc, merci Marianne d'être venue à notre micro.
Merci.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.
Carnet de voyage. Une invitation.
Ooh, can't anybody see?